La vérité vous rendra libre, une émission proposée par Jacques Canredon.
Chers auditeurs et cher Alexandre, bonjour. Nous reprenons, après cette période de confinement, les chroniques dans lesquelles nous étions partant de l'étude du nominalisme, cette erreur qui eut lieu au Moyen-Âge et dont nous avons vu un certain nombre de conséquences. Nous continuons ces conséquences et aujourd'hui nous allons examiner, comme découlant du nominalisme et de toutes les erreurs de la pensée, le relativisme. Une citation du prophète Isaïe dans le chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font de ce qui est doux amer et de ce qui est amer doux. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre sens. Pour expliquer cette citation, nous allons en formuler une autre tirée du livre de Mgr Gaume, écrit au XIXe siècle dans son tome 8 de la Révolution. Il écrit ceci. Dans l'ordre philosophique, le rationaliste n'admet aucune vérité à moins qu'elle ne convienne à sa raison, au tribunal de laquelle tout enseignement, toute doctrine doit comparaître pour être jugé, accueilli ou rejeté en dernier ressort. En sorte que c'est sa raison qui fait la vérité et qui prétend trouver en elle-même la dernière raison, la dernière cause des choses. Par le chemin de l'éclectisme, le rationaliste aboutit à l'apothéose païenne de la raison. Ce que cet auteur, donc Mgr Gaume, nomme ici l'éclectisme, et qu'on appelait ainsi effectivement au XIXe siècle, aujourd'hui nous l'appelons le relativisme, c'est-à-dire la doctrine d'après laquelle les notions de bien et de mal, les valeurs morales, la vérité, sont variables selon les individus, les époques et les sociétés. Et donc, où il n'y a rien de stable dans la pensée. Et donc la question est quelle stabilité, quelle unité, quelle croyance accorder à quelques principes, quelques modes de pensée, quelques modes d'être, de comportement. Que vaut la fidélité qui sont nécessaires à l'existence même de la personne, de la société, de la science, de la religion, de la nature. Si la vérité n'est qu'un flux incessant, variable et mobile, si la pensée devient liquide, incapable de conclure en rien, dépourvue de points fixes qui autorisent le jugement, l'action et la réflexion, plongée dans la dialectique du contraire perpétuel de l'homme, nous sommes sans cesse au bord d'un gouffre d'incertitude qui interdit tout progrès. Dans ce maelstrom, cet orage, cette violente tornade d'instabilité vertigineuse, même les mathématiques deviennent absurdes et vaines avec leurs calculs frappés d'incertitude et de précarité. C'est pourtant ce fléau du monde moderne où la vérité a perdu son sens, sa valeur, son rôle directeur qui structure la pensée ou la dévaste pour nous jeter dans un océan de scepticisme, de suspension du jugement et de doute généralisé. Alors que nous entendons sans cesse les experts radiophoniques et les régents de l'opinion, comme d'ailleurs l'homme de la rue, parsemer leurs propos d'un permanent « c'est vrai que » jamais la vérité n'a été autant crucifiée. Et cependant, le doute découlant du relativisme a depuis longtemps reçu le coup de grâce des plus grands penseurs. Aristote disait déjà, il y a plus de 2500 ans, « Toute négation est fondée sur une affirmation. » Saint Augustin, dans son traité sur la Sainte Trinité, chapitre 10, écrit « Personne ne doute qu'il y ait la faculté de vivre, de se souvenir, de comprendre, de vouloir, de penser, de savoir et de juger. Bien plus, s'il doute, il vit. S'il doute de l'origine de son doute, il se souvient. S'il doute, il comprend qu'il doute. S'il doute, il veut être certain. S'il doute, il pense. S'il doute, il sait qu'il ne sait pas. S'il doute, il juge qu'il ne doit pas croire au hasard. Quelle que soit donc d'ailleurs la matière de son doute, voilà des choses dont il ne doit pas douter, car sans elles, il ne pourrait douter de rien. Voyez l'absurdité du doute et du relativisme. En effet, il est impossible de douter de tout. C'est Aristote qui parle. Celui qui doute de tout tient au moins pour certain la thèse suivante. Il faut douter de tout. Mais alors, il n'est plus sceptique. Veut-il échapper à la contradiction ? Il devra prétendre, il est probable qu'il faille douter de tout. Mais alors, pour affirmer cela, il faudra qu'il tienne au moins comme certain un critère de probabilité, qu'il distingue la probabilité de la non-probabilité, et le voilà de nouveau pris à son propre piège. Dirait-il simplement « je ne sais rien » Il a cessé d'être sceptique, car il sait déjà quelque chose. Il sait qu'il ne sait rien. Bien plus, en disant simplement « que sais-je ?», il emploie une expression qui a un sens défini. Et il sait bien qu'en disant cela, il se distingue du « je ne sais rien ». De fait, Aristote disait déjà « pourquoi notre philosophe se met-il en route vers Mégare au lieu de rester chez lui et de penser seulement qu'il y va ? Pourquoi, s'il rencontre un puits ou un précipice, ne s'y dirige-t-il pas ? Mais pourquoi le voyons-nous au contraire l'éviter, comme s'il pensait qu'il n'est pas bon et qu'il est mauvais d'y tomber ? Il est clair qu'il estime que telle chose est meilleure et telle autre pire. Donc, le doute est absurde. Quel est le mal qui afflige présentement toutes les nations ? N'est-ce pas la confusion, c'est-à-dire la coexistence chez elles d'un reste de lumière avec beaucoup de ténèbres ? Qu'on comprenne bien, c'est important. La confusion moderne n'est pas le mélange des bons et des mauvais, qui a toujours existé et existera jusqu'à la consommation des siècles, ainsi que l'a déclaré la vérité éternelle elle-même, comparant ce mélange à celui que présente un champ de blé où la tige d'ivraie pousse à côté des tiges d'épi. Non, la confusion moderne n'est pas ce mélange, elle est le mélange dans les idées et dans les mœurs du bien et du mal, de la vérité et du mensonge, de la lumière et des ténèbres, comme si, sur la même tige, le blé et l'ivraie pouvaient pousser ensemble. Le mélange des mauvais avec les bons est de permission divine. L'œil de Dieu discerne les uns et les autres, et son tribunal les attend pour les ranger à droite et à gauche. En ce mélange de permis et de passagers, il n'y a donc pas de confusion. Mais le mélange du bien et du mal en doctrine et en morale, dans les idées et dans les mœurs, constitue une confusion abominable devant son regard. Or, la société moderne présente le spectacle de ce détestable mélange, arrivé à son dernier tournoiement, il y a longtemps, hélas, qu'il est en voie de formation. Maine de Biran disait dans ses pensées « Le plus grand bienfait de la religion est de nous sauver du doute et de l'incertitude, qui sont le plus grand tourment de l'esprit humain, le vrai poison de la vie. » Aujourd'hui, il est devenu banal, sous le prétexte accommodant et facile de la miséricorde, de croire que tout sera pardonné et que tout le monde sera sauvé. Cette facilité justifie et même inspire les pires errements intellectuels, moraux et existentiels. Combien sont trompés par la faute des faux prophètes de la complaisance et iront irrémédiablement en enfer. Dans son encyclique Spe Salvi, du 30 novembre 2007, le pape Benoît XVI avait prévenu cette lâche espérance. La grâce ne change pas le tort en droit. Ce n'est pas une éponge qui efface tout, de sorte que tout ce qui s'est fait sur la terre finisse par avoir toujours la même valeur. À la fin, au banquet éternel, non, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. En réalité, le relativisme, c'est l'exaltation du moi. Le moi, comme l'écrivait un grand écrivain américain Rod Dreher, est la seule autorité justifiée. Oui, l'anarchie de la morale est le fondement du relativisme. La Genèse disait « Mais Dieu sait qu'au jour que vous mangerez de ce fruit défendu, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. » Genèse chapitre 3, verset 5. Si on soutient le choix moral personnel comme critère désormais de l'acte religieux, c'est-à-dire où la conscience individuelle prend le dessus sur la vérité et sur l'objectif de la nature, c'est le moi subjectif divinisé, institué juge suprême légitime qui triomphe. Il n'y a dans ce cas plus de loi extérieure de transcendance qui oblige moralement. Les 10 commandements le cèdent à la toute puissante conscience individuelle. La société est abolie, chaque personne se fait sa propre règle d'action. Or, l'Église a toujours enseigné l'objectivité du péché, qui est la désobéissance et le rejet des 10 commandements. Concluons. Le cardinal Caffara, le 14 janvier 2017, écrivit dans Il Foglio, une revue italienne, « Ne dites jamais à une personne « suis toujours ta conscience », sans toujours ajouter aussitôt « aime et cherche la vérité de ce qui est bien », car sinon tu lui mettrais dans les mains l'arme la plus destructrice de son humanité. »
La vérité vous rendra libre, une émission proposée par Jacques Canredon.